I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Touchdown Actu. On continue la présentation de cette NFL version 2023. On va parler aujourd'hui des Miami Dolphins et direction la Floride aujourd'hui avec Grégory Richard. Salut Grégory.
Et oui, avec le soleil parisien pour symboliser le soleil de Floride. Bonjour messieurs, bonjour à tous.
On rigole, on sourit, je vais tout vous dire. On a déjà enregistré cette pastille il y a quelques instants. J'ai fait une petite erreur, on a été obligé de la recommencer, mais j'avais déjà pris la direction de la Floride. Donc on est toujours en Floride avec Grégory et on est toujours en Floride avec Victor Roulier. Comment ça va Victor ?
Miami Dolphins number one.
Ça aussi, il l'avait déjà fait avant.
Ah bah évidemment, alors, hein, comme un merde de.
Alors je soupçonne Lucas et non pas Luca d'avoir loupé son précédent lancement juste pour que Victor repousse la chansonnette pour nous faire le remake de T-Pain. Ah,
surtout que je l'ai trouvé mieux la deuxième fois que la première fois.
Ah bah évidemment,
moi, on progresse chaque jour.
Je suis à deux doigts de me louper une nouvelle fois pour qu'on le fasse une troisième fois. Bien sûr.
On peut choisir ses enfants.
Voilà. Bon, on va parler des Dolphins. On va être un peu plus sérieux, messieurs. Cette fois-ci, pas d'erreur de ma part. Les Dolphins qui ont terminé avec un bilan honorable l'an passé et qui sont allés jusque au wild card face aux Bills. Cette défaite face aux Bills en playoff. Miami qui a fait pas mal de mouvements aussi cette saison. L'arrivée de Jalen Ramsey, forcément, c'est celle qui va peut-être catalyser toutes les discussions. Robbie Anderson est arrivé aussi. Braxton Berrios, le receveur. Eli Apple est arrivé, le cornerback. Jake Bailey, Dan Finney, Isaiah Wynn du côté de la ligne offensive. Mike White, le quarterback. Malik Reed. Et puis on a prolongé aussi Nick Needham, Durham Smithy, Duke Riley, Raheem Mostert, le running back qui est resté. Puis il y a eu quelques départs. Byron Jones, Mike Gesicki, le tight end. Teddy Bridgewater, Eric Rowe, Melvin Ingram et Landon Roberts. On en a parlé hier. Trey Flowers est retourné du côté de New England. Messieurs, Victor, est-ce que Miami va passer le cap cette saison? Je l'ai dit, playoff l'an passé, défaite face aux Bills, qui sont une équipe de leur même division. Est-ce que Miami est capable de passer ce cap-là?
Oui, je pense. Alors après, le Jalen Ramsey, la grosse acquisition, malheureusement, il est déjà un peu cassé, donc on ne le verra pas tout de suite. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il va louper le mois de septembre à peu près. Mais globalement, moi, je trouve qu'on a une équipe toujours aussi cohérente. Pas de grands bouleversements, mis à part Ramsey par rapport à l'année dernière, quelques petites améliorations, mais on a un groupe qui se développe vraiment bien. On a des vrais playmakers et des petites signatures, moi, que j'adore. Tu vois, un David Long en linebacker pour un prix tout à fait modeste. C'est le genre de signature où, pour le coup, je tombais de ma chaise en me disant que c'était un des meilleurs mouvements de l'intersaison. Donc, clairement, moi, je suis assez optimiste. Je trouve qu'il y a enfin, après des années où à Miami, c'était d'éternelles reconstructions, le machin, etc. Là, on a enfin l'impression d'un groupe qui vit, qui évolue et qui évolue dans le bon sens.
Avec aussi la deuxième saison de Mike McDaniel. Est-ce que, Grégory, tu vois la philosophie, tu vois cette équipe qui va dans le bon sens et qui continue à progresser? Est-ce que tu vois une courbe ascendante?
Oui, bah en tout cas, offensivement, on ne peut pas dire que c'est une équipe qui a régressé l'année dernière. Ce serait absolument fou de dire ça. Alors, c'est sûr que, décidément, j'ai du mal avec les prénoms. Tyreek Hill, j'y ai arrivé, et Jalen Waddle, l'année dernière, ont vraiment réussi à booster ce secteur aérien avec énormément de verticalité. C'était une des équipes qui jouait le plus verticalement l'année dernière. avec peut-être Cincinnati hein, en NFL. Donc vraiment, c'était assez excitant à voir. Mais non seulement ça a progressé dans le domaine aérien, ce qu'on était en droit d'attendre avec l'arrivée d'un spécialiste offensif comme Mike McDaniel, mais ça a aussi progressé sur la ligne offensive. C'était leur gros bémol, notamment en 2021. Ça a progressé, alors il va falloir surveiller ça parce qu'il y a encore du changement au niveau du coach de ligne offensive, mais les choses vont globalement dans le bon sens, et on ne peut pas dire notamment concernant l'attaque, puisque c'était un grand problème, notamment sous l'ère Brian Flores, entre autres, hein, visiblement il y en a eu d'autres, qu'on connaît un petit peu moins, mais en tout cas, niveau offensif, on a eu cette progression qu'on espérait du côté de la Floride.
Victor, l'attaque, véritable force du côté de Miami pour la saison à venir et notamment le secteur aérien.
Évidemment, évidemment. Je veux dire, on a eu une excellente saison de Tua Tagovailoa l'année dernière quand il était sur le terrain. On parlera sûrement de la condition physique qui est évidemment un grand point d'interrogation. Mais ça fait partie de ces équipes qui sont tellement bien huilées que c'était facile pour Tua de faire des bonnes stats. Et quand je dis ça, c'est pas du tout un reproche. C'est vous pouvez l'appliquer à Brock Purdy, à Jalen Hurts, à qui vous voulez. Quand il y a un système qui marche tellement bien que tout paraît facile, c'est que le système est vraiment bon. Et forcément, quand tu as Tyreek Hill et Jalen Waddle, bon, bah, en termes de playmaker, déjà, t'es plutôt pas mal. Non, je trouve vraiment que c'est une équipe qui a trouvé une vraie identité. C'est une équipe qui ne perd pas de temps hein, sur le terrain en attaque. Hein, on l'a dit, très verticale, des gros gains, sans être impatient pour autant, mais une équipe vraiment explosive. Moi, j'aime beaucoup, là encore, le schéma. Après, un petit peu d'équilibrage avec la course ne ferait pas de mal pour cette saison, pour devenir un petit peu différent et un petit peu plus imprévisible.
On peut y aller, messieurs, parce qu'on sépare souvent un point fort, point faible, mais on peut parler plutôt de l'attaque en général, et puis on parlera de la défense tout à l'heure. Mais c'est vrai que, Grégory, cette attaque-là, l'an passé, le point faible, c'était certainement la course, parce qu'il y avait beaucoup de running back. On sait que McDaniel était du côté des 49ers, où il avait réussi à développer les coureurs. Il a eu du mal, peut-être, c'est peut-être le seul point faible de son système actuellement, il a eu du mal à vraiment faire exploser son jeu de course.
Alors, le truc, c'est que dans l'arbre Shanahan, alors, le récent trade de Christian McCaffrey à San Francisco a un peu cassé cette logique. Mais c'est vrai que généralement, dans les systèmes Shanahan, on investit rarement massivement sur les running backs en se disant qu'on peut en développer dans des comités assez performants. Et en l'occurrence, l'année dernière, Raheem Mostert, qui connaît assez bien le système offensif de McDaniel et de l'arbre Shanahan, a pas trop mal performé, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, a marqué un bon retour. Hein. Lui qui était notamment très en vue l'année où les Niners vont au Super Bowl. Maintenant, voilà, on a quand même consenti un investissement assez intrigant pendant l'intersaison avec la draft de Devon Achane, un running back assez physique, mais aussi assez explosif, hein, qu'on a d'ailleurs vu sur les retours de coups de pied pendant le premier match de pré-saison. Donc ça peut être un pari intéressant, ça peut permettre en tout cas de développer un petit peu ce secteur autour d'autres joueurs, encore une fois, d'un système connu avec Raheem Mostert donc, et Jeff Wilson, autre ancien des Niners. On sera toujours sur un comité, mais ça apportera peut-être un peu plus de variété et ça permettra en effet d'apporter un peu plus de rendre cette attaque un peu moins unidimensionnelle, surtout par rapport à un point que j'évoquais tout à l'heure, qui sera peut-être le facteur X, concernant notamment toi, Tagovailoa.
Alors messieurs, les facteurs X, si en plus on parle d'un quarterback et de blessure, là on est sur un double point tarte à la crème, je ne suis pas sûr que ce soit accepté, on en parlera tout à l'heure, dans quelques instants. On va parler de cette défense, Victor aussi, où est-ce qu'on la met? Est-ce qu'on la met dans les points forts, dans les points faibles? Qu'est-ce qu'on fait de cette défense-là? On a parlé de l'attaque qui est globalement un point fort, quasiment de partout. Qu'est-ce qu'on fait de cette défense?
On la met en point fort aussi. On la met en point fort. Le duo de pass rusher, c'est Bradley Chubb et Jaden Phillips, qui est vraiment excellent depuis qu'il est arrivé en NFL. Au milieu, il y a Wilkins, alors qui est en grève, je crois, depuis quelques jours, mais je ne doute pas que ça va se régler rapidement. Même Xavier Howard, qui a fait une saison moyenne par rapport à ses standards l'année dernière, Il va se relever. Il y a Holland qui est un excellent safety. J'ai dit, il y a David Long que j'aime beaucoup en linebacker. Il y a du talent partout, en fait. Moi, je trouve que cette défense, Je vais même m'enflammer, mais bien coaché, c'est une défense qui peut aller chatouiller le top 5 NFL.
Il y a de fortes chances qu'elle soit bien coachée, a priori, parce que pour moi, Victor Gio, c'est quand même une amélioration
pas... oui.
par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière. J'ai déjà oublié l'ancien coach des Pats qui était coordinateur défensif l'année dernière, Boyer, je crois. Pour qui il y a eu des saisons un peu avec et un peu sans. Vic Fangio, il y a quand même
Fangio,
bonne
c'est une référence.
D'expérience.
Bien sûr.
Josh Boyer, je crois, coordinateur défensif l'année dernière. Et oui, là, pour le coup, ça peut nous offrir une défense extrêmement agressive et un peu meilleure, en effet, notamment sur la couverture. Parce que certes, il y a eu le gros imbroglio tout au long de la saison dernière pour qu'au final, Byron Jones ne joue plus pour des problèmes de santé. Mais c'est vrai que finir avec aussi peu d'interceptions quand on a les talents qu'évoquait Victor sur le backfield, rien qu'Howard et Holland en l'occurrence. Jalen Ramsey, on l'a dit, je ne jouera pas le début de la saison, mais en tout cas, une fois qu'il sera là, il y a supposément sur le papier un bon groupe au niveau du backfield pour pouvoir punir les adversaires une fois que le pass rush aura mis une pression adéquate dans la poche.
Où est-ce qu'on va chercher les points faibles alors, messieurs? Parce que là, vous êtes en train de me dire que cette équipe, elle a des points forts partout. Est-ce qu'on s'enflamme totalement ou est-ce qu'on va chercher des points faibles, Victor?
Bah écoute, les points faibles, on disait, c'est plus des points d'interrogation, mais on a notamment le poste de tackle droit qui est aujourd'hui occupé par Austin Jackson, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas la sécurité sociale. On a pas de tight end. Ça, c'est quand même un choix un peu surprenant parce qu'il y en a qui essayent de me vendre du Ramsmite, mais bon, ça reste vraiment faible, voire très faible.
C'est Taylor Croft qui a un peu d'expérience, mais c'est vrai que c'est pas dingue.
Ouais, c'est pas dingue.
Pareil, ils ont drafté Elijah Higgins aussi de Stanford. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais ça va peut-être nécessiter un petit peu de temps quand c'est un sixième tour en l'occurrence. Quand tu avais, il n'y a pas si longtemps que ça, Mike Gesicki, et peut-être dans une moindre mesure, un Hunter Long à développer, c'est sûr que ouais, c'est peut-être une petite baisse de régime, je te rejoins.
Et puis la double peine, c'est que tu n'as pas Ramsey, et à la place, tu as Eli Apple. Hein. Donc si ça ne te fait pas perdre un ou deux matchs en début de saison, c'est quand même la terrible double peine. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas, je trouve, un point faible énorme ou quoi. Il y a quelques postes qui sont en souffrance, mais c'est difficile de combler tous les postes avec des stars, vu le salary cap, etc.
Après, ça va rejoindre ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais le point faible aussi, ça va justement être cette gestion un petit peu des temps faibles, entre guillemets, pour Miami, ou tout simplement cette gestion du chrono, parce que c'est bien d'avoir une attaque qui est supersonique, mais forcément, ta défense est aussi sujet à beaucoup fatiguer, à être beaucoup sollicité. Et on le rappelle, ils sont quand même dans une AFCS où ils vont quand même croiser des attaques qui peuvent être un peu problématiques, qui peuvent être un peu adeptes par moment d'un certain ball control aussi. Donc, ça peut, je ne vais pas avancer ça en point faible, mais si on doit partir sur un léger bémol au niveau de la défense, au-delà des soucis, on dira, de turnover que j'évoquais la saison dernière, mais qui peuvent être améliorés cette année, ça va être un autre point à surveiller pour les Dolphins.
Bon, eh bien, messieurs, on va y aller, parce qu'on parle de peu de points faibles, on parle de beaucoup de points forts. J'ai l'impression qu'il y a un énorme point d'interrogation. On va passer au facteur X. Est-ce qu'on parle du quarterback à ce moment-là? Tu as Tagovailoa qui a été souvent blessé, en tout cas qui a été écarté des terrains l'an passé, on le sait, dû à de nombreuses commotions, en tout cas des suspicions de commotion. Cette saison, on va voir comment il revient, mais c'est vrai que c'est un élément crucial dans la progression de cette équipe, Grégory.
Bah alors, au-delà de toi, Tagovailoa, le côté playmaker, je pense qu'on l'a malgré tout vu. Il jouait de cette manière-là à Alabama. Hein. C'est vrai qu'on dit, OK, il a Tyreek Hill, il a Jalen Waddle, etc., etc. Pardon, pour ceux qui se rappellent un petit peu du style de jeu d'Alabama, il ne jouait pas du tout de la même manière que Mac Jones, que Bryce Young. C'était du gros gain en cascade. Et voilà, c'est vrai que sa saison rookie a forcément été plombée par sa grave blessure. Mais en soi, voilà, c'est aussi le profil de joueur auquel on pouvait s'attendre. Moi, c'est plus global, c'est encore une fois, c'est d'un point de vue santé, bon, pour moi, le facteur X du côté de Miami. Parce qu'il y a la situation autour de Tagovailoa, on a répété depuis le début, voilà, il y a la situation autour de Ramsey, j'ai parlé de Byron Jones. Il me semble avoir vu passer le fait que Teron Armstead était sorti sur blessure d'un camp d'entraînement il n'y a pas si longtemps que ça. C'est voilà, Austin Jackson, on en parlait également tout à l'heure sur le poste de tackle droit, il a manqué une partie de la saison 2022, sauf erreur de ma part. C'est quand même un élément qu'il va falloir surveiller du côté de Miami, parce que s'il commence à y avoir de nouveau un petit peu trop de casse, bah là, sur des matchs importants, et leur calendrier ne va pas être simple, ça peut quand même rapidement se gâter et pas forcément bien les placer, quand bien même ils réussiraient de nouveau à se qualifier en play-off. On rappelle que l'année dernière, voilà, ils obtiennent ce septième ticket pour les phases finales, mais ils se retrouvent quasiment à jouer avec des backups sur bon nombre de positions, notamment la position de QB. Donc ce sera forcément quelque chose à prendre en considération.
Victor, inquiet pour l'infirmerie, on pourrait en parler tous les jours, forcément, ça fait partie de la NFL, mais est-ce que c'est plus particulier à Miami ?
Il y a quand même à Miami beaucoup de stars souvent blessées. Si, ça, c'est particulièrement vrai pour Miami. Après, c'est vrai que tu as, bah, ça dépasse un peu le cadre du simple football. Hein. Il y a un moment, on s'est demandé s'ils allaient prendre sa retraite. On se souvient tous des images terrifiantes de l'année dernière. C'est vraiment un joueur qui est en sursis. J'espère pour lui que continuer sa carrière ne met pas en sursis sa santé globale. Mais c'est sûr que c'est forcément à prendre en compte. Armstead, surtout, Grégory disait, ça fait quand même plusieurs saisons qu'il a du mal à finir l'année, quoi. Donc, c'est pas juste une saison ou autre. Et si tu perds ton tackle gauche, si tu perds ton quarterback un ou deux matchs, si tu perds un tel, bah, dans une division extrêmement compétitive, ça peut te coûter beaucoup. Donc, oui, c'est particulièrement vrai à Miami.
Et tu as Tagovailoa, je le disais en introduction, mais il va être, en tout cas, il y aura un backup qui s'appelle Mike White, le quarterback qui est arrivé des Jets. C'est aussi pas forcément une mauvaise idée de prendre un quarterback. Alors on le sait, Mike White, il va pas tout exploser, c'est peut-être pas la trempe d'un titulaire, mais on l'a vu aux Jets, on l'a vu faire des bonnes entrées, donc il pourrait éventuellement prendre la place de Tua Tagovailoa pour le remplacer s'il venait à être blessé. Bien entendu, on le souhaite pas, mais je trouve que c'est un backup plutôt intéressant sur le marché des backups, des quarterbacks. On va parler du calendrier, messieurs, du côté de Miami, avec le déplacement à Los Angeles pour affronter les Chargers en première semaine, déplacement aux Patriots, ensuite réception des Broncos, déplacement à Buffalo, réception des Giants, des Panthers, déplacement à Philadelphia, réception des Patriots. Il y aura ensuite un match à domicile, mais qui se jouera à Londres face aux Chiefs. Semaine de repos dans la foulée, réception des Raiders, déplacement chez les Jets et les Commanders, réception des Titans et des Jets, des Cowboys aussi, déplacement chez les Ravens et réception des Bills. Messieurs, si je peux identifier quelque chose sur ce calendrier avant de vous demander le pronostic, c'est qu'il y a trois déplacements et des déplacements pas évidents pour commencer lors des quatre premiers matchs. Mais ensuite, en fin de saison, il y aura quatre réceptions lors des cinq derniers matchs. Et ça, ça peut jouer aussi.
Je suis totalement d'accord.
C'est plus important que la bye week. Hein.
C'est plus important que la bye week, oui.
Oui, oui, pour reprendre... Pour en prendre un classique là encore, ma tarte à la crème à moi. Oui, ça peut leur permettre de finir en boulet de canon. En effet, si tout le monde est relativement en forme, comme on le disait précédemment, je peux enchaîner du coup sur la question des pronos.
Vas-y, surtout j'ai envie de savoir, messieurs, parce que vous êtes enflammés un petit peu quand même, est-ce que le bilan va suivre ? Est-ce que vous allez assumer ou pas ?
Je suis dans la même logique que pour les Jets, à qui je vais donner une fiche de 17. Pour moi, Miami est à 17.
Victor ?
On a donné 10 aux Jets ?
Oui, moi en tout cas, j'ai donné 10 au Jets.
Enfin, j'étais pas là, mais vous avez donné 10, bah 11 du coup.
Ah, c'est donc une
ça va
victoire,
se voir,
de
monsieur Roulier.
Ah, j'aime provoquer, j'ai une réputation à défendre, tu sais, il faut la travailler tous les jours. Non, en vrai, j'avais mis 11, quoi qu'il arrive, mais dans mes pronos personnels, j'ai Jets et Dolphins à 11, donc en tout cas, ça va être. Ça va être une vraie bataille entre les trois monstres d'AFC Est.
C'est ça. On n'a pas vu les Jets encore version Rodgers contre Buffalo, mais c'est quand même une équipe qui pose régulièrement des problèmes aux Bills. Hein. Donc, c'est pas non plus à exclure, encore une fois, si... Bon, il faut espérer que tous les voyants soient un minimum au vert, mais c'est pas à exclure que ce soit une équipe qui arrive à rafler la division grâce à ça. Hein.
Et là, Victor, quand tu parles des trois monstres du côté de l'AFC Est, Grégory pense aux Patriots directement. Donc c'est,
bien sûr.
Pour moi, il y a quatre monstres, hein, mais bon, après,
c'est un peu perturbant.
Pour vous.
C'est un peu perturbant, mais on verra. En tout cas, c'est vrai que ça va être très intéressant, cette division. Et puis, on parlera des Bills très certainement dans les prochains jours. Pour le coup, nous, c'est ainsi que se termine cette pastille sur les Dolphins. On se retrouvera demain, pas avec vous, messieurs. Je crois que le casting change un peu. Et je crois que demain, on parlera des Jaguars avec Raoul et Raphaël. C'était un plaisir de partager ces quelques pastilles avec vous. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux de Touchdown Actu avec la preview écrite et un autre point de vue pour les Miami Dolphins. C'est ainsi qu'on se quitte. Messieurs, ciao, ciao!